Vous avez le cœur à jouer, vous? Je sais pas. Ça pourrait nous faire du bien, sur le papier, de jouer ou même de décider comme ça un vendredi matin qu'on pourrait lire la vie comme un jeu pour mieux la vivre, la vie, qui sait. Dans nos métiers, le jeu, c'est plutôt ni oui ni non, vous le savez, c'est la question. Mais dans la plupart, c'est quoi? C'est un jeu de hasard. Pour beaucoup, c'est pari, poker, puissance 4. C'est la bataille où on joue gros, très gros, jeu de stratégie, jeu de go, même si en vérité, et ça tout le monde le sait, c'est le jeu de la bouteille. Un coup de chance au départ vous désigne vainqueur, pas très juste comme jeu, ou alors jeu de loi, le but étant d'arriver le premier tout en sachant qu'on n'y pourra rien, jeu de rôle que l'on n'a pas choisi. Tu parles d'un plan de vie. On rêvait d'un jeu d'aventure, on se retrouve en jeu des petits chevaux ou en pierre, papier, ciseaux. Ça n'est pas toujours drôle de jouer. Ça peut toujours très juste non plus, surtout quand ça part en casse-tête, qu'on refuse les règles et que ça tourne au jeu de guerre, jeu de qui, jeu de croquet. Il suffit d'un coup pour tomber, si ça dérape, c'est balle aux prisonniers, c'est ça. Notre jeu de société, vendredi 6 décembre 2019, un peu plus même. Et c'est pas un coup de bluff ça, moi je joue pas moi. Toi ?
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. À quoi joue mon invité d'aujourd'hui? Révélé il y a 31 ans dans La vie est un long fleuve tranquille d'Étienne Châtillaise, il a depuis enchaîné les rôles à la vitesse de l'éclair. Prix d'interprétation à Cannes pour son rôle dans La pianiste de Michael Haneke, César du meilleur second rôle pour La tête haute d'Emmanuel Berco. Il sera à l'affiche la semaine prochaine de Lola vers la mer, réalisé par Laurent Micheli. Les retrouvailles entre un père et sa fille transgenre au gré d'un voyage de deuil. Bonjour Benoît Magimel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Ce matin. Tout d'abord, quand est-ce que vous ne jouez pas, vous?
C'est une bonne question. Quand j'étais gamin, en fait, j'ai l'impression d'être toujours en permanence en train de chercher et d'observer un peu les réactions qu'on a dans la vie pour les transposer dans les rôles et au cinéma. Mais non, quand je tourne pas, c'est très bien.
Parce que pour complimenter un acteur, on lui dit parfois que pendant une scène, il a pas l'air de jouer, il a l'air de vivre. Cette phrase, comment vous l'entendez, vous?
J'aime bien. En fait, j'ai pu l'interpréter en disant incarner. Voilà, j'ai compris qu'il fallait dire incarner. Il incarne. Et oui, mais c'est toujours agréable, c'est toujours très bien.
Mais quand vous jouez la comédie, dans quelle mesure est-ce que vous avez l'impression de vivre?
Quand c'est peut-être plus personnel, quand il y a des résonances plus intimes en fait. Et plus les années passent et plus j'ai l'impression de tirer les choses un peu plus vers moi.
Ça veut dire que jouer, c'est vivre de façon très intense?
Je crois que il faut croire à ce qu'on raconte et croire en ses émotions. Enfin, donc les vivre, oui, le plus possible, même si on triche beaucoup.
On triche.
Oui, c'est un métier où on triche énormément. Mais quand on essaye d'être vrai, parfois on ne vous croit pas. En fait, c'est assez curieux.
Vous pourriez vous en passer entre nous?
Oui, je pense. Oui, je pense. Si je pouvais tourner peut-être un peu moins, je le ferais un peu moins.
Quand est-ce que vous avez compris que votre vie ne serait pas consacré à autre chose qu'à ça, en fin de compte, à jouer?
Quand j'ai décidé d'en faire mon métier, et je me suis vraiment dit que bon, c'était une course de fond. Il fallait penser sur le long terme. Il fallait prendre son temps, en fait. Pas être pressé.
Et c'est arrivé quand ça? Dès La vie est un long fleuve tranquille?
Non, j'ai arrêté les cours à 16 ans, et c'est à ce moment-là que je me suis dit bon, finalement, c'est une évidence. Il y a tout qui s'allume, en fait, quand on est sur un plateau, et c'était le meilleur moyen pour être heureux, quoi.
Mais c'est vrai, Benoît Magimel, que quand on a préparé cette émission, on a regardé votre filmographie et on s'est rendu compte à quel point vous n'aviez jamais arrêté de tourner. Plus d'une cinquantaine de films en une petite trentaine d'années. Vous avez vu le temps passer, vous?
Bah, aujourd'hui, on fait le constat, hein, les années passent, c'est vrai, on se rapproche de la cinquantaine, c'est terrible. Il y a des questions existentielles qui surviennent.
C'est-à-dire que si vous vous approchez de la cinquantaine, on prend un coup de vieux.
Bah, je prends un coup de vieux, hein. D'ailleurs, je deviens le vieux de l'histoire à chaque fois, maintenant. Je deviens un père de famille, vous voyez.
C'est dur?
Ouais, c'est, on se rapproche de la mort, je sais pas, c'est terrible. La vieillesse. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression de vieillir tant que ça, en fait.
Lorsque vous voyez votre visage de jeune premier dans La fille seule de Benoît Jacquot, par exemple, dans Les enfants du siècle de Diane Curis, vous voyez quoi?
Un garçon qui faisait 60 kilos à peine, qui gonflait le torse pour paraître plus costaud. C'est ça qui me revient en fait en tête, et je me souviens que j'avais besoin de me durcir un peu. J'ai l'impression que j'étais trop fluet, qu'il fallait que, pour en imposer un peu plus, il fallait que je durcisse un peu les traits.
Un garçon qui doutait, j'ai l'impression.
Oui, beaucoup, 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 beaucoup. Et je crois que le doute, c'est très bien en fait. Ça permet, ça évite de faire des conneries justement, de choisir un peu n'importe quoi et de penser qu'on peut tout faire. Je crois que c'est une erreur en fait. et puis de comprendre qu'en fait on est juste des interprètes.
Mais c'est un travail quand même, une construction. En quoi les années ont-elles fait de vous un meilleur acteur, à votre avis?
Je crois qu'on se débarrasse du superflu, on se débarrasse des fioritures et on va à l'essentiel en fait. Et les choses sont plus instantanées en fait, moins de réflexion et finalement, la somme de toutes ces années, le fruit de ce travail, en fait, ça rejaillit d'un seul coup. Je sais pas, c'est extraordinaire. En fait, l'expérience est formidable.
Et ça vaut pour tous les comédiens, vous, qui êtes un fervent cinéphile.
Je crois qu'en fait, chaque décennie apporte quelque chose. En fait, on raconte son histoire avec son physique, avec les années, avec le temps qui passe. Et donc, forcément, on s'enrichit d'expérience. On est plus lourd. On a une histoire de plus en plus dense, en fait, à livrer à l'image.
Dans Lola vers la mer, vous jouez un homme, Benoît Magimel, qui vient de perdre son épouse des suites d'une longue maladie. Il retrouve sa fille, transgenre, avec laquelle il a coupé les ponts. Et ensemble, ils vont faire un voyage pour disperser les cendres de celle qu'ils ont aimée tous les deux. Être père, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Tiens.
Être père, c'est être responsable. C'est pour moi le métier le plus difficile, je crois. Et j'ai été père assez jeune, en fait. Et je crois que il y avait un perfectionnisme qui était une grosse erreur, en fait. On a envie de combler toutes les lacunes qu'on a eues, tous les manques qu'on a eus, et c'est là où on fait des erreurs, je crois. Mais bon, pour ce film, en l'occurrence, si j'avais pas été père, je pense pas que j'aurais pu l'accepter, en fait.
Quelles erreurs vous avez commises, vous?
Je pense qu'il y a un désir de donner peut-être énormément d'amour. Ça, c'est pas une erreur. Non, l'absence, en fait. Vous savez, le plus dur, c'est l'absence, en fait. Donc, il faut essayer d'être présent.
Faut pardonner à ses parents, dans ce cas-là, d'avoir été absent, les erreurs qu'ils ont faites. Ouais. Ça tient à quoi? Parce que d'une certaine façon, c'est aussi ce dont parle le film, ça.
Oui, oui, absolument. Et je crois que aussi, ce qui est drôle, c'est que, enfin, les parents d'aujourd'hui sont un peu des enfants aussi. Hein. Et je trouve que ce père, il a quelque chose d'assez enfantin, en fait. Parce qu'il a besoin qu'on le comprenne, il a besoin d'être entendu.
Et il cherche le pardon aussi.
Oui, il y a une rédemption, mais c'est 3 jours. C'est vrai qu'en 3 jours, on peut pas recoller les morceaux, mais on peut apprendre. Il apprend sur lui. Non, mais ça a été intéressant aussi pour moi de faire ce personnage. On se remémore un peu son enfance aussi, quoi.
Il y a des choses que vous avez dû pardonner, vous?
Oui, c'est faut être apaisé, en fait, je crois. Bon. Donc c'est normal. Il faut régler ses comptes avec ses parents. Et cette enfant règle ses comptes et elle a bien raison. Oui, oui, il faut accepter ses parents comme ils sont. Ouais.
Celle qui n'est pas dans le pardon dans cette émission, Benoît, je pense que vous la connaissez. C'est la culture, évidemment, et son actualité peu charitable, aigrie et revancharde. Que se passe-t-il donc aujourd'hui? Plastique, la fête est plus chic. Près de 1500 artistes, producteurs et agences de musique électro ont décidé de bannir le plastique de leur fiche technique. Ce document, vous savez, qui sert à planifier tous les concerts et les événements. Une initiative lancée par le collectif Bye Bye Plastic, créée par Viviane Bacos, DJ du groupe Blondish, à laquelle ont notamment adhéré des poids lourds, hein, du milieu, comme Fatboy Slim, Richie Hawtin, Ben Clock ou Tale of Us. Big up!
Je le dis parce que souvent on le prend mal, je suis un auteur populaire et je m'en flatte, populaire de qualité s'il vous plaît. Ce qui compte, c'est l'approbation du public.
La romancière Nicole de Buron s'est éteinte mercredi. Elle avait 90 ans, ancienne journaliste à Marie-Claire. Elle s'était tournée dès le milieu des années 50 vers l'écriture de fiction. En 5 décennies de carrière, elle avait fait paraître près d'une 20aine d'ouvrages, dont Les Saintes Chéries, adaptées en série télé à succès. Scénariste, dialoguiste, Nicole de Buron avait aussi travaillé pour le cinéma, notamment sur les films de Gérard Pires. What do we want? We want to be the change to heal the wounds that divide us. We want unity through truth and justice. No more lies. Le combat de Box One avec le soutien de Thanks for Nothing, le Grand Palais organise aujourd'hui et demain Art 19, belle expo en soutien à Amnesty International. 10 artistes, dont Yoko Ono, Gerhard Richter ou Kiki Smith, engagés pour les droits de l'homme et la liberté d'expression, ont créé spécialement pour l'occasion des œuvres tirées à 100 exemplaires originaux et destinées à être vendues au profit de l'ONG. C'est stylé. Modern sovereignty, the sunlight stars. Et enfin, MGMT en remontée, fer de lance de pop psyché des années 2000, le duo de Brooklyn vient de révéler In the Afternoon, un titre inédit accompagné de son clip hypnotique. Le morceau est la première livraison 100% indépendante du groupe qui a quitté sa maison de disques Columbia et créé son propre label pour tout faire tout seul. L'enregistrement, le mix et même l'envoi des versions physiques des albums. Bravo les cocos. Le comédien Benoît Magimel, invité de Boomerang ce matin pour Lola vers la mer. Un film, on le disait, qui aborde un sujet assez peu traité au cinéma, mais de plus en plus, il faut bien le dire, à savoir la transidentité. Quel enjeu est-ce que c'est pour vous que le cinéma s'empare d'un sujet comme celui-ci ?
Ben c'est formidable que le cinéma puisse éveiller les consciences, en tout cas tendre à ça. Et il y a une démarche politique et en même temps raconter une histoire. Quand tout ça est entremêlé, c'est formidable.
Si ça se trouve, le cinéma, je me disais, peut permettre de mieux comprendre en fait le monde dans lequel on vit aussi.
Absolument, absolument. Et donc si ça touche des gens, si ça, en plus si les gens sont concernés, c'est formidable. Mais si on peut apporter quelque chose, je pense pas que ça change la face du monde, mais ce sera un petit écho. Mais en tout cas, non, on a l'impression que c'est un film nécessaire. C'est ce qui fait la différence. C'est qu'on pense que moi j'ai ressenti une urgence quand j'ai parlé avec le réalisateur, quand j'ai rencontré la jeune comédienne, ça a été quelque chose d'assez évident. Et donc ouais, on a l'impression qu'on a une petite responsabilité, mais en tout cas on fait quelque chose de peut-être qui est important en tout cas.
Qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir mieux compris, vous, d'avoir appris à mieux comprendre en faisant du cinéma?
J'ai beaucoup appris sur moi et sur les gens, sur les autres en fait, parce que vous parlez de comprendre, en fait c'est surtout ça, c'est comprendre les autres, ça c'est le plus important. Et de se mettre toujours à la place des autres, c'est un regard tendre en fait, et avec les années on s'adoucit en fait, on est beaucoup moins dans le jugement et il y a de la bienveillance naturelle qui s'installe, on regarde les autres avec plus de compassion et de compréhension en fait, c'est formidable l'âge en fait, ça confère quand même...
Mais vous êtes en train de nous dire que vous êtes devenu un type bien.
Exactement, en fait c'était ça mon ambition, c'était de réussir ma vie d'homme et d'essayer d'être bien, mais je prenais des modèles comme ça, des figures masculines, avec des principes, avec des convictions comme ça.
C'était qui?
Bah, il y avait ces figures assez fortes comme Ventura, mais j'aimais aussi Michel Simon, j'aimais Gabin, j'aimais ces gens-là.
C'est des acteurs à chaque fois?
Oui, beaucoup, ouais, beaucoup des acteurs. Ouais. Le cinéma en fait m'apprenait énormément en fait. Je dévorais les films en fait quand j'étais gamin. J'en voyais beaucoup.
C'est bizarre, tu m'as jamais dit que tu voulais faire prof de sport. Et du coup?
Quoi?
Bah t'as arrêté tes études pour reprendre le magasin?
Pas du tout, j'avais pas du tout envie d'aller bosser là-bas. Tu plaisantes?
Mais pourquoi tu l'as fait alors?
Bah parce que j'avais pas le choix. Ta mère et moi on était fauchés quand elle est tombée enceinte. Au début ça allait parce que mon père nous aidait, mais... Très vite après il est mort et puis... C'était juste avant ta naissance.
J'étais persuadé que c'était une passion qui t'avait transmise.
Qui?
Ton père.
Mon père? De transmettre une passion? On voit bien que tu le connaissais pas.
Mia Bollars, qui vous donne la réplique, Benoît Magimel, dans Lola vers la mer, dans cette scène où il est question de filiation, de transmission, cette scène entre un père et sa fille, qu'est-ce qu'elle vous raconte à vous?
Elle me raconte que il faut savoir écouter. Voilà.
Oui.
Savoir se taire aussi.
Le silence, ouais.
Ouais, ouais. Écouter et parfois faut arrêter de s'expliquer. Il faut juste être là, écouter, sans chercher à transmettre aussi, sans chercher à donner quelque chose en fait. Je pense que parfois on attend, enfin les autres attendent rien. L'enfant parfois a juste envie d'être entendu, quoi.
Mais c'est passionnant de vous entendre parler de cela, vous qui parlez assez peu, somme toute, Benoît Magimel. Vous avez beau faire 4 films par an, j'ai l'impression que vous cultivez une forme de discrétion, c'est de la timidité, c'est une façon de se protéger, c'est quoi?
Ouais, c'est de la pudeur, et puis ça m'a toujours paru étrange de parler de soi, mais avec les années on y arrive, hein, on y arrive. Mais au départ c'était un exercice assez difficile parce que je me demandais qui ça pouvait intéresser, et puis je comprenais pas pourquoi on pouvait parler de son intimité de cette façon-là. Donc, mais j'ai encore un peu de retenue avec ça, hein, vous savez, tout ce qui est réseaux sociaux et toutes ces choses-là, ça me pose, enfin voilà, j'ai du mal à m'exprimer à travers ça. En fait.
Vous êtes intimide?
Parfois.
Et comment est-ce que ça se dompte, ça, la timidité?
ça ne se dompte pas. Je crois que c'est une émotion. Donc, en fait, elle peut venir à des moments auxquels on ne s'attend pas. Et puis, parfois, c'est la retenue, surtout. Moi, ce que j'aime, c'est ça aussi. J'aime la retenue chez les gens et j'aime la pudeur. Ça me raconte beaucoup de choses et ça me touche encore plus.
Mais en incarnant des personnages aussi, j'ai l'impression, avec le temps, cette envie de jouer de la comédie, Benoît Magimel, qui vous l'a transmise, en fin de compte?
J'avais un grand-père qui était de l'assistance publique, qui a 75 ans, s'habillait en tutu, danseuse dans les mariages, en fait, qui était un clown, qui a fait de sa carrière dans l'armée, mais qui a fait un peu d'opérette, qui était passionné par l'opérette. Donc c'est peut-être le seul lien que j'ai trouvé.
C'est un drôle de personnage.
Ouais, c'est un drôle. Je l'ai assez peu connu, mais c'est vrai que ça a été, avec le recul, je trouve que c'était vraiment une évidence, quoi. Trouver, il n'y a pas de hasard, je crois. Mais le cinéma, finalement, c'était quelque chose de, c'était presque dans mon ADN, en fait. Je le reconnais aujourd'hui. J'en parlais hier et faut que je le reconnaisse quand même.
Dans quel genre de famille est-ce que vous avez grandi?
Mère infirmière, un père employé de banque, parents divorcés, un grand frère, une petite sœur.
Et une famille totalement étrangère au cinéma, j'ai l'impression. La découverte de ce milieu très tôt, alors que vous n'étiez qu'adolescent, pour la vie est un long fleuve tranquille, quel choc est-ce que ça a été?
J'étais choqué, en fait, oui, c'est presque le mot, enfin, inquiet, et je me posais des questions, parce que je trouvais que c'était trop facile, et je me disais, mais le travail, pour moi, ça avait toujours quelque chose de difficile, de... Voilà, c'est quelque chose qui est lié à la fatigue, enfin, ça, physiquement, il y avait quelque chose. Je voyais ma mère travailler, infirmière libérale, elle travaillait énormément, elle prenait jamais de vacances. Et donc, quand je me suis retrouvé sur un plateau, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était des vacances. J'avais des défraiements, j'étais dans un bel hôtel. En fait, tout ce qu'il y avait à côté me semblait extraordinaire. Donc voilà, je me suis dit, ça peut pas être aussi simple que ça.
Ça vous est arrivé de ne pas vous sentir à votre place?
Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, je sais pas, ma mère me racontait, vous savez, j'étais un enfant qui était très proche de sa maman, qui la soutenait souvent, voilà, et elle me disait, on te reprochera toujours d'où tu viens, mon fils. Et c'est une phrase que avec le recul, je me suis toujours demandé pourquoi elle me disait ça, mais...
C'est-à-dire, avec le recul, surtout, est-ce qu'on vous l'a reproché?
Je ne sais pas. Quand je regarde certains acteurs comme Gérard Depardieu, comme Charles Aznavour, c'est des gens qui, un jour ou à un moment donné dans leur vie, on leur a fait payer des choses, j'ai l'impression. Les gens, enfin, on a été assez dur avec eux. C'est-à-dire que quand on vient pas forcément du sérail, vous avez encore moins droit à l'erreur. Enfin, moi, je l'ai remarqué avec ces gens-là, quoi.
Pourtant, ça s'apprend dans les réflexes, les codes?
Ça s'apprend. Ouais. Ça prend du temps. Et justement. Voilà, au début, on se sent pas à sa place. Moi, j'avais l'impression d'être un peu un imposteur. Et puis, la première fois que j'ai joué, par exemple, un rôle comme Alfred de Musset,
oui.
J'avais une responsabilité. Je me dis, je suis un prolo, on va me prendre pour un fils d'infirmière qui connaît rien à rien. Donc, j'ai pris tout ce que je pouvais apprendre sur le personnage. Et puis, finalement, au bout d'un moment, j'ai tout envoyé balader. Mais c'est vrai qu'en fait, il y avait des complexes. J'ai eu beaucoup de complexes au départ. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Donc, j'avais des moments où j'avais peur. Mais finalement, ça se soigne, tout ça. À un moment donné, on trouve sa place.
Et quand est-ce qu'on sait qu'on l'a trouvé, sa place?
Avec le temps. Tout s'en va. Voilà. Je crois que c'est la plus belle chanson, mais ça raconte beaucoup. Mais c'est vrai que c'est avec le temps, les années. À un moment donné, et puis la reconnaissance aussi. Moi, c'est vrai que tout a toujours été lié au travail, quoi. Au travail. Et je me suis toujours dit, il n'y a que le travail qui est important. Et la reconnaissance, c'est important. D'ailleurs, la reconnaissance, on court toujours après. Et je me suis toujours dit que j'ai jamais eu besoin de celle de mon père, curieusement. Car le métier du cinéma me l'avait apporté assez rapidement. Et donc faut prendre ça avec distance, mais en même temps voilà, ça construit aussi.
Quelle joie de vous entendre ce matin, Benoît Magimel. On va parler de tout cela, évidemment, après un peu de beauté, tiens. Anthony and the Johnsons, Bird Girl, c'était en 2005, sublime chanson de l'envol, de la traversée, des identités mouvantes aussi, que l'on entend d'ailleurs dans Lola vers la mer. Vous êtes sur France Inter avec Benoît Magimel. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
I am a bird girl. I am a bird girl. I am a bird girl. I'm a bird girl now. I've got my heart here in my hand. I've got my heart here in my hands now. I have been searching for my wings. I've been searching for my wings some time. I'm gonna be born. I'm gonna be born to soon the sky. I'm gonna be born into the soon sky. I'm the bird girl, and the bird girls go to heaven.
Sur France Inter. Augustin Trapenard.
Bon, on est quelque part entre le choriste de la Croix de Bois et Gladiator, hein. C'est très simple, c'est assez intéressant d'ailleurs, avec son œil rond et bleu, son profil d'empereur romain, son sourire rougissant. Il a quelque chose du bon père de famille, celui qui se dévoue pour les courses de fournitures scolaires à la rentrée, celui qui se retrouve trois fois par semaine dans les embouteillages pour conduire ses trois enfants à chacune de leurs activités extrascolaires, celui qui à chaque Noël enfile un ventre postiche, un bonnet rouge et une longue barbe, parce qu'il a bon dos, hein, avec son t-shirt gris, sa montre, sa casquette, ce matin vissée sur sa tête, le comédien Benoît Magimel, invité de Boomerang pour son rôle de père dans Lola vers la mer, un rôle qui ne dénote pas vraiment de la majorité de ceux que vous avez pu jouer par le passé, en ceci que c'est un nouveau rôle dramatique, Benoît. Pourtant, au départ, il paraît que vous vouliez faire rire.
Oui, absolument. Je voulais être un clown.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, les gens ont dû voir autre chose. Et,
Mais comment est-ce que vous y preniez pour faire rire au
départ? J'imitais les politiciens. Il y avait Gaston Defer, il y avait Chirac, il y avait...
Vous imitiez Gaston Defer?
Oui, enfin, les marionnettes plutôt des politiciens. J'étais très mauvais. Mais c'est vrai que j'avais le sens du drame, en fait. Hein. Ça m'arrivait à 6 ans de remplir une valise en osier comme ça et de claquer la porte de l'appartement en disant « Je quitte la maison, maman, je m'en vais ».
Vous étiez une drama queen.
Ah ouais, je partais, je descendais l'ascenseur, je me retrouvais en bas et puis je remontais. J'avais pas le choix. Mais c'est vrai que il y avait ça.
Mais qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie, vous?
Des tas de choses.
Les films.
D'ailleurs, c'est intéressant de revoir les choses qui vous faisaient rire 20 ou 30 ans plus tard et de se rendre compte que c'est différent. Il y a des choses qui ne changent pas et d'autres où c'est vraiment un four. Mais...
Et quand vous retombez sur La vie est un fleuve tranquille, par exemple, vous riez?
Mais c'est très bizarre, La vie est un fleuve tranquille. En fait, il y a des films qu'il faut... Je crois que c'est bien de voir les films quelques temps après, en fait. Faut laisser reposer.
Alors vous dites quoi quand vous le voyez?
Je me rends compte que je marche de la même façon, en fait. J'ai la même démarche.
On vous en repropose des comédies?
Ouais. C'est plus rare, mais c'est plus dur. C'est des choix plus difficiles. C'est l'art suprême, en fait. L'art de faire rire, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire.
Et le plus difficile aussi.
Le plus difficile, et quand on est dans une salle, quand on entend les gens rire, quand vous faites rire les gens, moi ça me procure une joie énorme.
C'est-à-dire qu'il faut un grand metteur en scène. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent chez vous, la vision du metteur en scène. Il se trouve que parmi les grands metteurs en scène avec lesquels vous avez travaillé, il y en a un qui a énormément compté et avec qui vous avez tourné trois films, La Fleur du Mal, La Demoiselle d'Honneur et La Fille coupée en deux. Quel souvenir est-ce que vous avez gardé de ce travail avec Claude Chabrol?
Ah, c'est un souvenir merveilleux et c'est vraiment quelqu'un qui m'a enseigné la dérision et le recul sur ce qu'on fait. Quoi.
Comment ça?
La distance, en fait. C'est, on s'inquiète beaucoup quand on est plus jeune, on a l'impression que tout est important, tout est grave, et dès qu'on fait une connerie, on a l'impression que c'est la fin du monde. Il m'a dit, t'inquiète pas, des conneries, j'en ai fait. Il me dit, tu sais, j'ai fait Hamlet avec Roger Hanin, avec l'accent pied noir. Il me dit, je peux te dire qu'on se relève de tout. Mais c'était un homme délicieux, voilà, brillant.
Et qu'est-ce qu'il vous disait quand vous jouiez?
Ben, on m'avait raconté, tu verras, il s'en fout, c'est un mec qui dort, il pense qu'il a bouffé, vous savez, tous les clichés, toutes les idées reçues que j'avais entendues. Et donc, j'ai fait exprès de jouer mal, en fait. J'ai mal joué, il m'a dit non, tu te fous de ma gueule, vas-y, recommence. Le cinéma avec Chabrol, c'est un art parce que ça se fait en famille, quoi. Ça se fait, c'est une équipe. Il y a le sens de, il y a le respect des autres, il y a le temps, je sais pas, il y a quelque chose. J'aime bien les gens en costard aussi, ça me rappelle une époque.
Qu'est-ce que vous attendez d'un metteur en scène ou...
Qu'il ait une vision, qu'il puisse m'emmener parfois juste avec très peu de choses, voilà. M'emmener dans une direction auquel j'avais pas pensé, en fait. C'est cette petite nuance, à un moment donné, quand ces choses nous échappent, on a tout construit, mais finalement, il y a une connaissance intime qui fait que, avec une petite direction, un petit mot, ils arrivent à faire sortir des choses auxquelles on ne s'attendait pas soi-même, quoi. C'est particulier, mais...
Et ça vaut aussi pour les partenaires de jeu, les autres comédiens, ceux qui vous donnent la réplique, qui vous permettent d'avancer aussi?
On me disait toujours, c'est pas impressionnant de travailler avec des grands acteurs, et j'ai toujours dit que c'était plus facile, en fait, parce que ils vous portent, c'est plus simple. Et puis, j'aime travailler avec, j'aime pas travailler contre.
Catherine Deneuve, par exemple, avec qui vous étiez en train de tourner le nouveau film d'Emmanuel Berco, qui malheureusement a dû s'interrompre suite à des problèmes de santé, de Catherine Deneuve. Vous aviez déjà tourné avec elle dans La Tête Haute. Qu'est-ce qu'on apprend quand on travaille avec elle?
Parfois, des acteurs vous font sortir complètement de votre scène. Vous les regardez tout d'un coup, vous êtes en train de jouer avec eux, mais ils sont tellement... Ils ont un naturel tellement incroyable.
C'est son cas à elle?
Oui, parfois, ça m'est arrivé de m'arrêter, en fait, simplement, et de la regarder, voilà, comme un spectateur.
C'est un problème, quand même.
Oui, c'est un problème, ouais, bien sûr.
Qu'est-ce qui fait un grand comédien, une grande comédienne pour vous, Benoît Magimel?
Ses choix, principalement, en fait. Et puis, c'est un don de soi. Je crois qu'il y a quelque chose, une fois qu'on y voit, quelque chose de personnel... Qu'est-ce qui fait quelqu'un vous émeut? Qu'est-ce qui fait l'apanage des grands acteurs? Quand on voit Meryl Streep, par exemple, voilà, c'est une actrice époustouflante, quoi. Je sais pas.
C'est intéressant parce que vos modèles, vous n'êtes jamais vraiment allé les chercher dans le cinéma contemporain. C'est par les films français des années 30 que vous avez toujours été attiré. Quel âge d'or du cinéma français est-ce que c'est pour vous, ça?
Ouais, j'étais. En fait, un jour, j'ai découvert ce cinéma en noir et blanc, et autour de moi, on parlait. Les références étaient toujours. Outre-Atlantique, hein. Toutes les références étaient américaines. Et j'avais énormément de problèmes culturellement. En fait, j'arrivais pas, moi, à m'identifier à des Al Pacino, à des De Niro. C'était trop loin. C'était trop loin. Et pourtant, c'est des immenses sacs d'or, j'adore. Et puis quand j'ai découvert Michel Simon dans Boudu sauver des eaux, par exemple, et j'ai découvert Renoir, je me suis dit, mais en fait, ils ont rien inventé. C'était déjà là, quoi. Renoir qui filme avec des longues focales, Michel Simon dans les rues de Paris. Ouais. C'est des plans volés, c'est les années 30. Donc tout d'un coup, c'est intéressant parce que... Et puis j'ai appris mon métier en écoutant des acteurs parler de leur métier ou des metteurs en scène parler de la direction de l'acteur. Et on y trouve des choses du bon sens. Vous savez, c'est le bon sens, en fait.
Je pense à eux, par exemple.
Fous-moi le camp.
Non, je ne partirai pas avant que vous ayez entendu.
Oh, mais pas comme ça, mon Dieu.
On tire un... T'entends?
Voyez pas que je chauffe. Qu'est-ce que tu veux que ça?
Je croyais que les gens qui exerçaient un métier manuel n'étaient pas nerveux.
Tu vas te taire.
Si je t'en balançais, tu rigolerais, là, hein?
Mais t'es fou, si. Mais arrête, arrête, t'es fou!
Moi, je m'en fous. Attendez, je m'en fous, moi, j'ai pas d'amour. Tu me l'as déjà joué, la pièce Roger la honte, l'opéra indigne, moi, j'en ai marre. Guignol, tu comprends, ça me fatigue.
Tu m'avais connu quand j'étais jeune.
Quand t'étais jeune, tu devais être pareil. Aussi dégueulasse que maintenant.
Mais je voulais te tuer, dis donc. Une idée comme ça. J'ai souvent des idées merveilleuses.
Jules Berry, Jean Gabin, dans Le Jour se lève de Marcel Carné en 1939. C'est vous qui l'avez choisi, cette dernière scène, Benoît Magimel. Pourquoi?
Parce que je suis tombé en affection pour Jules Berry. Je connais pas toute sa filmographie, je connais pas toute sa vie, mais je l'ai découvert dans Le Crime de Monsieur Lange, je l'ai découvert dans ce film, et j'ai découvert un acteur d'une modernité, parce que c'est un mot, voilà, je sais pas comment l'exprimer. Mais
ça tient à quoi, ça?
Mais c'est sa façon de jouer, quoi. Ça joue à cette espèce de naturel. On a l'impression qu'il est là avec nous. Ce moment.
Ce bon sens aussi?
Ouais, il parle, on sent qu'il improvise, enfin, c'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque. Et ces petits mots, et alors, il y a une anecdote avec cette scène, c'est qu'en fait, Gabin avait les foies. Il avait la trouille, parce que Berry, voilà, cette éloquence, ce charisme, il était extrêmement impressionné, il n'osait pas.
Et il était un petit peu comme vous face à Catherine Deneuve, somme toute.
Non, parce que j'étais pas impressionné avec Catherine. Je faisais semblant de pas l'être. Mais c'est vrai que c'était plutôt, non, c'était plutôt la classe pour moi de travailler avec Catherine.
Mais vous, quand vous regardez cette scène avec Jules Berry et Jean Gabin, vous ressentez quoi?
J'ai une affection pour cet acteur, cette façon de jouer. J'ai envie de jouer comme il joue, quoi. J'ai envie de faire comme lui, quoi. Il a une façon. Et en plus, il sort un peu de cette voix, cette gouaille, en fait. Lui, il est vraiment à part, Berry. Il est vraiment à part. C'est quelqu'un. C'est comme Pierre Brasseur. C'est des acteurs comme ça. C'est des génies, quoi, qui sont pas dans leur temps. Ils faisaient du cinéma pour payer leur dette de jeu, je crois. Vous voyez, c'était des mecs qui sont passés comme ça. Mais c'est des gens, extraordinaires. Enfin, je sais pas. Moi, il m'impressionne beaucoup. Et c'est vrai que Michel Simon, par exemple, c'est quelqu'un. J'ai eu le prix Michel Simon. Je savais pas qui c'était à l'époque. Donc je me suis intéressé. Puis je suis allé regarder. Et puis c'est vrai qu'il m'a. Voilà, c'est un acteur aussi, pareil. Je crois qu'il faut regarder un peu. On a quand même des petits bijoux, hein, dans le cinéma français. Donc c'est pour ça que cette époque m'a toujours intéressé. Et ce qui m'avait frappé, c'est que chaque petit rôle, du plus petit au plus grand, ils sont tous justes. Ils sont tous incroyables. De Funès, un acteur de génie aussi, qui m'impressionne beaucoup. Vous voyez, des acteurs. Moi, j'adore les acteurs et je pourrais en parler des heures parce que, voilà, c'est vrai qu'ils m'inspirent beaucoup.
Et on pourrait vous écouter des heures en parler des acteurs. Merci infiniment, Benoît Magimel, d'être venu faire un tour dans cette émission.
Merci.
Je rappelle que Lola vers la mer de Laurent Micheli avec Mia Bollars, Else de Coquelire, Samy Oudbali, notamment sort la semaine prochaine. C'est un très beau film d'une extrême douceur. Merci aussi à Perrine Malinge, Lola Costantini, Pierre Martinerie, Joséphine Dumoulin et Léonard Billot, toute l'équipe solidaire de Boomerang. À lundi, les amis.